Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, Laure Broulard qui nous a encore trouvé des pépites, des documents sonores extraordinaires dans les archives de la rédaction d'RTL. On en reparlera dans un instant. C'est Sébastien Rocheron qui est avec nous à la technique aujourd'hui. Et puis à la une, on en parlait avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, l'incroyable histoire du mage de Compiègne. C'est un personnage qui a fait la une de l'actualité pendant des mois, voire des années, dans les années 60. Il va être mis en cause à de nombreuses reprises pour la mort d'un certain nombre de ses adeptes, mais la justice ne pourra jamais le condamner pour exercice illégal de la médecine, parce que, disons-le, le mage était malin, peut-être plus malin que les juges, et on vous expliquera cela en détail avec l'un de mes invités, en tout cas celui qui est près de moi, ici dans les studios du 22 rue Bayard, c'est Alain Hamon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de revenir encore une fois dans votre ancienne maison. Et on va entendre tout
on
à l'heure.
On revient toujours sur le lieu du crime, c'est bien.
Voilà, on va vous donner un coup de jeune parce que vous allez entendre des papiers que vous avez fait à l'époque, des reportages pour la rédaction d'RTL sur ce personnage absolument incroyable. Alors, avant d'aller plus loin, je vous dis tout de suite qu'on aura aussi un journaliste photographe en retraite qui s'appelle Jean-Marc Cassera, qui a jamais oublié sa rencontre avec le mage de Compiègne. Il a volé, je crois, une photo absolument extraordinaire dont il nous racontera dans quelles circonstances. On ira faire un tour à Compiègne, évidemment, avec l'adjoint au maire, Nicolas Ledet, qui nous dira, d'abord lui, il a longtemps habité près de la maison du mage de Compiègne, et il nous dira surtout que, alors que le mage est mort en 1991, il y a toujours des pèlerinages. Chaque année, il y a des gens qui viennent des quatre coins de l'Europe pour dire où est la maison sainte. Alors, cette histoire insensée méritait quand même quelques mots d'explication. Et j'ai choisi de vous raconter comment tout a commencé, mais non pas sur la base de mes propres investigations, mais de vous raconter ce que René Hainaut disait pour expliquer ses pouvoirs extraordinaires. Tout avait commencé, selon les dires donc de René Hainaut, en 1933. Une nuit, alors que ce jeune plombier se repose dans sa chambre, il est réveillé par un sifflement strident qui semble provenir d'une immense flamme blanche qui se jette sur lui et qui l'entoure. Il est au centre d'un brasier et, dit-il, il ne ressent aucune chaleur. À la fin de l'année suivante, 1934, René Hainaut, qui est toujours plombier zingueur, fait une chute de 10 mètres du haut d'un toit. Membre brisé, trou dans la tête, dira-t-il, il refuse de voir un médecin, il s'adresse à un guérisseur qui le traite uniquement par la prière. Il se remet très vite et il ne conserve aucune cicatrice de ses blessures. Dès lors, le plombier zingueur se persuade qu'il a bénéficié d'un bienfait de Dieu et il continue malgré tout à mener sa vie humble de petit artisan sans parler à quiconque de ces événements. Le 31 août 1944, 10 ans plus tard, sa vie bascule. Ce jour-là, il travaillait, dit-il, chez une jeune femme qui avait eu le pied cassé en tombant dans son escalier. Elle souffrait atrocement, les médecins, impuissants à traiter sa douleur, lui proposaient l'amputation. Or, cette jeune femme avait entendu dire que le jeune plombier avait, comme on dit, des pouvoirs. Alors, elle lui demande de prier pour elle afin d'éviter l'opération. Mais René Hainaut refuse, il rentre chez lui, précipitamment. Il s'apprête à s'endormir lorsque, c'est toujours lui qui parle, un homme au visage pâle, encadré d'une barbe blonde, vêtu d'une robe bleue dont les pieds sont à 30 cm du sol, apparaît dans sa chambre et lui dit « Tu peux guérir pour moi, il suffit que tu souffles sur les parties malades. » Le plombier retourne alors chez sa cliente, souffle longuement sur son pied blessé, et quelques jours plus tard, la miraculée venait elle-même, raconte René Hainaut, à pied, jusqu'à la maison de la rue de Monchy, où il habite, pour lui montrer qu'elle était totalement guérie. La rumeur de cette guérison magique fera le tour de la ville en quelques heures. Le lendemain, une foule de malades faisait déjà le siège de la maison du saint, comme on l'appellera bientôt. À partir de ce jour, René Hainaut avait laissé la place au mage de Compiègne.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors, on va retrouver tout de suite Alain Hamon. J'ai glané ça dans des journaux, notamment dans un article absolument remarquable du Nouveau Détective.
Excellente enquête.
Ils avaient fait une enquête, il y avait un journaliste qui s'appelait Pradier, je ne me souviens plus de son prénom, et qui avait fait une enquête de terrain extraordinaire. En fait, l'histoire de René Hainaut, Alain Hamon, c'est l'histoire du guérisseur malgré lui, non? C'est comme une comédie de Molière.
Mais oui, c'est le guérisseur malgré lui, puisqu'il disait... Sans doute aussi pour se défausser un peu, parce que malin le bougre quand même. Hein, parce que tant qu'il soufflait à une certaine période, tant qu'il soufflait sur les blessures pour soi-disant guérir les malades, il pouvait tomber sous le coup de la loi pour exercice illégal de la médecine. Oui. Et donc il a compris ça, puisqu'il a même d'ailleurs été condamné. On en parlera certainement.
On en parlera parce qu'on a même trouvé des reportages de l'époque sur des morts dramatiques.
Absolument. Et donc après il s'est penché uniquement sur la prière, mais. Là aussi, il prenait ses précautions et il disait, mais moi, c'est pas moi qui ai décidé de prier pour la guérison de ces gens, c'est le Christ qui m'a demandé de prier.
Bah oui.
Donc, en effet, à mon avis, c'était le guérisseur malgré lui.
Oui, il faisait comme les rois de France qui guérissaient les écrouettes et les écrouelles, et le roi disait toujours aux gens qu'il touchait, hein, puisque chaque roi nouvellement intronisé pouvait toucher les écrouelles et les guérir, disait, je te touche. Dieu te guérit. Et René Hainaut faisait exactement la même chose. Alors, dans un petit instant, vous allez nous expliquer dans quelles circonstances, en tant que jeune reporter, vous êtes trouvé plongé dans cette histoire, vos souvenirs de l'époque, qu'on va émailler, bien sûr, avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, et puis avec aussi le concours de Jean-Marc Rocasserra, donc qui est aujourd'hui, comme je disais, à la retraite, qui était à l'époque photoreporter pour l'agence Gamma, et pour le courrier Picard d'ailleurs, et il nous racontera dans quelles circonstances il a pris une photo, parce que, j'ajoute, il voulait pas de photos, il voulait pas qu'on prenne de photos de lui. Alors, le mage, il interdisait les photos parce qu'il disait, l'église va en profiter.
Oui,
pour
ça va devenir les marchands du temple.
Voilà, on va distribuer mes photos comme des images pieuses, et à d'autres, il disait, c'est pas la peine de me photographier, de toute façon, je n'imprime pas la pellicule.
Mon image n'imprime pas la pellicule.
Pas n'importe qui, hein, quand même, quand on est mage. Alors, une pause. Et alors, bien sûr, si vous avez entendu parler de cette histoire, si vous habitez à Compiègne, ou si vous la découvrez, vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 3210 pour les questions par téléphone, ou alors nous envoyer un petit courriel, même un grand courriel, sur rtl.fr.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, une histoire qui a fait, comme on dit, la une de l'actualité pendant des semaines, voire des mois, dans les années 60 et même les années 70. On vous raconte l'histoire de René Hainaut, le plombier guérisseur, malgré lui, comme le disait il y a un instant mon invité Alain Hamon. On va entendre la voix du mage. On s'est dit quand même qu'il fallait que vous aviez de la curiosité comme nous. Et Laure Broulard a retrouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL un document absolument formidable qui a été enregistré par Christian Brincourt à l'époque, qui nous écoute peut-être d'ailleurs aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est René Hainaut qui s'adresse déjà à près de 200 fidèles qui sont rassemblés devant sa maison de la rue de Monchy.
La manifestation de Compiègne a pour but d'inviter les hommes à demander l'intervention divine directement, leur faire voir qu'il est prêt à les écouter, à les secourir. Il leur suffit qu'ils soient initiés, qu'ils sachent qu'ils soient là, qu'ils sachent qu'il est près d'eux, qu'il est en eux. On croit que je guéris les malades. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas moi. Ceux qui savent que c'est Dieu qui les guérit, ceux-là guérissent très bien. Ceux qui supposent que ce soit moi, ceux-là n'obtiennent pas très bien. Et moi, ce que je fais, se résume à bien peu de choses. ayant été doté d'une permission céleste donnée directement. Je n'ai pas reçu cette faveur par l'intermédiaire de qui que ce soit. Elle m'a été donnée directement. Ça n'est pas croyable au premier abord.
Et non, ça n'est pas croyable, mais il faut dire que beaucoup de gens y ont cru, que ça a été un véritable phénomène. D'ailleurs, j'ai vu des photos de l'époque, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Jean-Marc Roccasera et avec Alain Hamon, devant la maison au mur de briques de Compiègne, les gens, la tête baissée, faisant des prières devant ce mur de briques. C'est presque le mur des lamentations, c'est la grotte de Lourdes qu'on touche avant de s'en aller. Alors, avant de vous raconter vraiment les souvenirs de mes invités, je voudrais qu'on entende un autre document tout de suite comme ça dans la foulée, parce qu'on n'a pas entendu les gens, ceux qui croient justement. Eh ben, on va les entendre, parce que chaque dimanche, au début en tout cas, après c'était tous les jours, mais chaque dimanche, des centaines d'adeptes s'amassaient donc devant cette maison, rue Charles de Monchy, à Compiègne. Et Christian Brincourt, qui était reporter à l'époque, s'était mêlé à la foule. Reportage.
Je suis devant le 24 de la rue Charles de Monchy et autour de moi environ 500 personnes. Ces 500 personnes attendent d'être reçues par Monsieur Hainaut. Ces gens parlent entre eux, ils m'ont parlé, ils m'ont raconté quelques-uns de leurs cas. Monsieur, par exemple.
Et c'est surtout ma mère qui, à 72 ans, a eu une fracture du fémur avec un raccourcissement reconnu par un médecin de 15 cm. Et en quelques semaines, elle a été rétablie sans plâtre ni élongation.
Grâce à Monsieur Hainaut.
Grâce aux prières, oui, faites par M. Hainaut et elle-même.
Vous, monsieur, alors, vous êtes accordéoniste, je crois.
Oui, voilà ce qui s'est passé. J'avais été mordu par un chat en déménageant. Alors, automatiquement, je suis allé voir le docteur tout de suite. Piqûre antitétanique, antibiotique et puis rayon. Alors, au bout d'un mois, on me repasse à la radio parce que le docteur trouvait qu'il y avait... J'ai vu quatre docteurs, entre parenthèses, différents. Il y avait quelque chose qui ne gazait pas. Alors, on me repasse une radio, c'était le samedi donc, et on devait me couper le doigt le lundi, il n'y avait aucune...
Car la gangrène s'était installée.
Il y avait la gangrène, d'ailleurs je vous ai fait voir la radio. Alors après tout, je vous avoue franchement, je ne croyais pas à la petite maison, à Monsieur Hainaut. Puis je me dis, qu'est-ce que je risque? Et je suis venu le dimanche avec tout le monde, comme vous voyez là.
Vous êtes venu la veille de votre amputation?
La veille de mon amputation.
Et depuis?
Aujourd'hui, mon doigt remarche.
Et vous pouvez rejouer l'accordéon?
Mon doigt, je vous dirais franchement, le tout c'est pourri pour ainsi dire, il y a un morceau d'os qui est sorti, et vous voyez, ça marche.
Parmi cette foule...
Voilà, et l'accordéoniste peut à nouveau jouer de l'accordéon. C'est un extrait hein, d'un long reportage de Christian Brincourt. Alors, maintenant, Alain Hamon, expliquez-moi, vous, à quelle époque vous arrivez sur place et quand est-ce que vous entendez parler de cette histoire de Minge?
Bah, c'est-à-dire qu'entre 62 et 69, il y a eu 5 personnes qui sont décédées d'avoir suivi les préceptes de René Hainaut.
D'accord, oui.
Et en 69, en juillet 69, il y a une jeune femme d'un petit village au nord de Compiègne qui s'appelle Crisole qui meurt après une longue maladie, tuberculose, et qui n'étant pas soignée parce que sa famille des ressortissants polonais installés en France depuis très longtemps refuse de la faire soigner.
Oui.
Et donc, alors non seulement la tuberculose, à l'époque, c'est encore une maladie mortelle, mais en plus, sans qu'elle soit soignée, c'est encore pire. Et elle souffre en plus. Elle est morte dans d'atroces souffrances. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y avait un commandant de gendarmerie qui a tellement été secoué par cette histoire et secoué par le fait de ne pouvoir rien faire judiciairement et juridiquement,
oui.
qu'il a appelé les journaux. Le commandant de gendarmerie a appelé les journaux, il a alerté la presse en disant c'est incroyable, il y a un mec qui va finir par... Bon. Et moi, à l'époque, moi je suis tout petit correspondant de presse au Progrès de l'Oise, tri-hebdomadaire installé à Compiègne. Ma maman a un bistrot dans un petit bled qui s'appelle Verberie. Ouais. Et après, elle s'installera à 200 mètres de la rue de Monchy.
Ah, d'accord,
dans un bistrot. Elle avait les gitans comme clients.
On va parler des gitans après, parce qu'ils considéraient le plombier Zinger comme un dieu vivant.
Exactement.
Quoi,
hein, bon. Et donc, à l'époque, je suis aussi correspondant de l'AFP et du Figaro.
D'accord.
Donc, bon, la presse arrive, j'arrive pas le premier. hein, la presse arrive, on en entend parler, et donc on arrive rue Charles de Monchy à Compiègne. Quoi.
Alors, on va parler de vos contacts et de comment...
c'est une histoire folle.
Quelle apparence vous allez raconter. Je voulais savoir, la personne qui est morte, c'était, est-ce que c'était Béatrice Arrault?
Non, c'est une autre.
Hein,
non, c'est...
D'accord, mais enfin, peu importe
les noms. C'est Daniel Fleurus, ouais. Que tous ses amis et proches avaient surnommé Doudou, ouais. Une charmante jeune femme qui est vraiment morte dans des conditions terribles. Quoi.
Ouais, parce qu'il y a une autre femme qui s'appelle Béatrice Arrault.
Oui, absolument. Et là, c'est l'avant-dernière, Béatrice Arrault.
Je vous en parle, parce que c'est en 71, c'est plus tard, effectivement. Je vous en parle parce que vous allez vous réentendre, parce que vous êtes allé sur place dans le village.
Oh mon Dieu.
Où, évidemment, cette mort n'était pas passée inaperçue.
Non.
Et où le village était vraiment révolté, évidemment, ouais. Par ce qui s'était passé. Alors, on fait une première pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après avec Alain Hamon pour nous raconter sa première rencontre avec le mage. Et puis, on va parler un peu plus précisément quand même de ses morts successives et de l'incroyable façon dont cet homme va finir par échapper à la justice, malgré tous les efforts d'un certain nombre de magistrats. A tout de suite. Alors pour l'instant, on est en compagnie d'Alain Hamon. Il nous a expliqué, jeune reporter, travaillant pour plusieurs médias, se retrouve là-bas. Pourquoi il se retrouve là-bas et pourquoi on parle finalement du mage de Compiègne à l'époque? C'est parce qu'il y a des gens qui meurent. Je le dis quand même, je le précise, je ne voudrais pas ouvrir une polémique dans cette émission, mais on m'a dit qu'au standard, au 3210, il y a un certain nombre de gens qui disent, mais comment vous parlez de cet homme comme ça? Moi, il m'a guéri, c'est un type formidable. Moi, je ne mets pas en doute, personne ne met en doute le fait que c'était peut-être une personne formidable. Le seul problème dans sa vie, c'est que peut-être à cause de ses préceptes ou parce que des gens ne juraient que par lui, il se coupait de la possibilité d'aller voir les médecins, d'acheter des médicaments, et qu'il y a eu 3-4 morts, dont un petit garçon, 5 morts, dont un petit garçon de 2 ans et demi, qui avait eu un grave accident de la route. Son père a fait 95 km en voiture pour l'amener à la maison du mage au lieu de s'arrêter à l'hôpital, et cet enfant est mort dans des souffrances terribles. Donc, il faut quand même, il faut pas raconter l'histoire à l'envers, voilà. Hein, mais sinon, on veut pas de mal au mage de Compiègne. Simplement, en tant que journaliste, on est bien obligé aussi d'ouvrir les dossiers, de dire ce qu'il y a dedans. Alors, ça, cette mise au point étant faite, je me suis renseigné sur le quotidien de cet homme, parce que lui, il se pense effectivement très sincèrement investi d'une mission divine. Il habite dans cette fameuse maison dont vous allez nous parler, Alain Hamon. Il se lève à 6h30 du matin. C'est un peu la vie des saints, hein, quand on raconte son histoire. Il est en prière jusqu'à 18h. Pendant ce temps-là, lui, il vit sur une paillasse à l'étage dans une chambre au volet clos qui ne s'ouvre jamais. Sa femme et sa fille sont en bas. Fille de caractère, hein, quand même, qui a pris un
sa
peu...
Sa femme aussi.
Et sa femme aussi, qui ont pris un peu les choses en main quand même, le côté matériel des choses, on va dire. Et puis, le soir, vers 18h30, il sort dans son jardin, et là, il commence à parler, alors, à travers la grille, aux gens qui sont massés devant.
Oui, et même à une certaine époque, en juillet 69, quand Daniel Fleurus meurt et que là, ça commence à bouger, quand je dis ça commence à bouger médiatiquement et judiciairement, il va même pas aller jusqu'au milieu de la petite courette, mais c'est tout petit, hein, c'est une cour qui fait 3 mètres sur 2, quoi. Bon. Ouais. Et il va même pas aller jusque dans la courette, il va se contenter de se mettre sur le pas de la porte de la pièce qui donne sur cette cour, et il ne parlera que de là. Il parlera que de là, pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, cette histoire de la mort de Daniel Fleurus amène des journalistes, mais par dizaines, mais c'était la folie.
Oui.
C'était la folie. Moi, j'ai vu arriver des voitures bondées de reporters de France Soir, par exemple, pour ne citer que ce journal, mais qui feuilletonnaient, c'est-à-dire tous les jours, la page 2, entière,
consacrée au
mage de Compiègne, à ce qui se passait, etc. etc. Oui. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y avait eu un petit goût du défi, parce que dès qu'on avait entendu cette histoire folle de toute façon, vous faites ce que vous voulez avec vos photos, car mon image n'imprègne pas la pellicule, vous imaginez bien qu'il y a des photographes qui se sont dit, ah bon, on va voir ça.
Oui, ça, Rocasera va nous raconter
voilà,
ça.
Et alors j'étais à l'époque, je travaillais en binôme avec un photographe, justement, un photographe d'une agence qui n'était pas Jean-Marc Rocasera que j'ai connu par la suite. Et donc, l'un de nos premiers soucis, ça a été d'essayer d'avoir une photo du mâle. Alors, comme c'était au mois de juillet, les journées étaient longues, et donc on avait essayé de faire du ramping à travers les jardins du quartier pour arriver jusqu'au sien, jusqu'à sa cour. Ouais. Et ben même là, on s'est fait coincer et on est obligé de partir en courant parce que les gitans.
Alors voilà. Donc voilà. Les gitans. Alors la communauté gitane a toujours entouré comme des vrais gardes du corps cet homme. Il y avait une ferveur très particulière. Il y avait beaucoup de rumeurs. On disait mais il a guéri le fils du roi des gitans. Bon, je pense que les gitans sont les premiers à dire qu'il n'y a pas de roi des gitans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi cette ferveur?
Alors, il y a une variante, et à l'époque, en mettant nos pas dans ceux de Pierre Cordier et de Patrick Hainaut, qui étaient les deux reporters en chef sur cette histoire de détectives, oui, qui étaient vraiment des enquêteurs de première qualité, en mettant nos pas dans les leurs, on a quand même rencontré beaucoup de gens. Et on a rencontré notamment la sœur de René Hainaut.
Oui.
Et elle nous a raconté pas mal de choses. Mmh. Et elle nous a raconté que l'histoire du fils du roi des Gitans, c'était peut-être pas tout à fait la vérité, mais qu'en revanche, il s'était occupé d'une jeune femme qui était partie dans le Midi pour rejoindre son mari fonctionnaire.
Ah, une jeune femme enceinte, c'est
exactement.
Ça?
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Elle quitte son mari
parce qu'elle ne vivait que par les préceptes de René Hainaut.
Parce qu'il refuse d'aller avec elle. Le mari fonctionnaire,
oui. Lui, René Hainaut, pour lui, c'est.
Oui, voilà.
C'est n'importe quoi.
Il est muté sur la Côte d'Azur, point à la ligne.
Et puis il ne veut pas surtout entendre parler de ces choses-là.
Donc elle le quitte. Enceinte.
Elle le quitte, enceinte, et elle va prier. Le mage de Compiègne, 24 rue Charles de Mongy.
Ouais.
Elle est sans ressources, sans logis, sans rien du tout.
D'accord.
Et elle va se retrouver dans un terrain vague à proximité d'où sont installées les caravanes des gitans de la région.
Ouais.
Et elle va elle-même s'installer dans une caravane. Et ils vont la prendre sous leur protection.
D'accord.
Voilà. Malheureusement, l'histoire ne correspond plus à la légende, parce que on aurait pu imaginer que les gitans avaient été subjugués par ce qui pouvait arriver à cette jeune femme si René Hainaut l'avait guérie.
Oui. Mais de quoi? Elle est pas malade, elle est enceinte.
Sauf que le précepte de René Hainaut, c'est accoucher naturellement. Alors accoucher naturellement, pour les gens qui croyaient dans ces préceptes, c'était aller au fin fond de la forêt de Compiègne, se mettre, alors vraiment dans les dernières dizaines de minutes, dernier quart d'heure de la venue au monde d'un enfant, se coucher au pied d'un arbre et surtout, pas de sage-femme, rien, l'aide de personne.
Et elle va le faire.
Et elle va mourir. Elle va mourir, c'était en 1966. Elle a même été enterrée au cimetière des Gitans. Enfin, dans le carré des Gitans d'un cimetière à Compiègne.
Donc, ça serait la source de cette...
D'après la sœur de René Hainaut à l'époque, en 1969, quand nous la retrouvons et que nous l'interrogeons, c'est plutôt ça l'histoire, le lien avec les Gitans. Il n'empêche que c'est devenu une espèce de garde prétorienne de René Hainaut, et que c'est devenu de la folie, parce que
y compris quand il était convoqué au palais de justice.
En 1969, le moins que l'on puisse dire, c'est que les magistrats de Compiègne n'ont pas fait preuve d'un grand courage. Et puis le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, s'en est mêlé, et donc le parquet de Compiègne, le procureur de la République, a fini par convoquer René Hainaut.
Oui, parce qu'il y avait des plaintes aussi.
Voilà. Mais alors, René Hainaut ne voulait pas venir. Alors là, si c'est vous, si c'est moi, si c'est n'importe quel Pékin, on lui envoie deux gendarmes et puis c'est terminé. Bon, là, il n'en était pas question.
D'accord.
C'était René Hainaut qui devait venir de lui-même. Alors, il est venu un jour. Il est venu dans une camionnette entouré d'une quinzaine de gitans, lesquels s'étaient armés de parapluies pour pouvoir le protéger des photographes éventuels. Et alors là, il s'est passé un truc dont, à mon avis, on n'entendrait plus parler aujourd'hui et qui ne se passerait plus aujourd'hui dans la presse telle qu'elle est faite aujourd'hui. C'est-à-dire que il fallait la photo, quoi. Il fallait la photo de René Hainaut arrivant au palais de justice. Par la porte, c'était pas possible. Donc on s'est mis d'accord avec les photographes, nous les rédacteurs comme on dit, nous sommes montés sur le toit, un toit de faible hauteur qui était au-dessus de la cour du palais de justice, et là on a sauté à 15, on a fait le coup de poing avec les gitans et avec les gendarmes de l'escorte. Ouais. Et l'un d'entre nous, qui était un pigiste de l'agence France Presse, est rentré dans la camionnette, a retiré le parapluie qui gênait la photo, ouais, qui protégeait René Hainaut. Et il a fait une photo, d'accord, qui est parue dans France Soir à l'époque.
Alors, on va faire une pause et on va continuer à parler de photos maintenant avec Jean-Marc Rocasera, qui va nous donner, lui, sa version personnelle de la photo, en tout cas, qu'il a prise, puisque je crois que...
Oui, lui aussi a réussi.
Je crois qu'il a été même le premier à obtenir une photo du... Enfin, obtenir. on lui a pas donné, hein, il l'a prise. On va lui demander ça dans un tout petit instant après une pause.
L'heure du crime sur RTL.
La véritable histoire du mage de Compiègne, on vous raconte le dessous des cartes avec des journalistes qui étaient sur le terrain à l'époque pour enquêter. Parmi eux, Jean-Marc Rocasera, bonjour.
Bonjour, Jacques Pradel.
Et merci.
Bonjour, Alain.
Bonjour.
Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus tous les deux.
Oui, tout à fait, très longtemps.
Oui, ça fait une quart d'année, oui.
Alors, à l'époque, Jean-Marc Rocasera, vous êtes photo-reporter pour l'agence Gamma. On a compris que le mage de Compiègne n'était pas fanat de se faire prendre en photo, mais on a compris aussi qu'il y avait une énorme demande, évidemment, des médias d'avoir des photos de cet homme. Racontez-moi l'histoire de votre photo.
Bon, il y en a plusieurs photos. Il y a, disons que à l'époque, le coup de théâtre qui s'est passé, c'était en 1977 lorsqu'il a perdu son épouse Carmen.
Oui.
Et à ce moment-là, il a décidé de se rendre tous les jours au cimetière à 5 heures de l'après-midi au cimetière sud de Compiègne,
oui,
pour se recueillir sur la tombe de son épouse.
D'accord.
Il était escorté au départ jusqu'à 300 mètres de l'église par une estafette avec il était à la place passager avec un voile devant, donc on pouvait pas le prendre en photo.
Mmh.
Et par contre, il marchait 300 mètres pour se rendre dans le cimetière.
Mmh.
Et il était toujours avec son manteau, avec sa capuche qui tombait sur le front. Donc j'ai fait des photos à travers des tuiles HLM, etc., de cette silhouette noire avec ses capuchons, mais j'avais pas son visage. La seule possibilité était de voir son visage. Il avait la tête baissée, et donc j'ai imaginé plusieurs scénarios, dont le dernier, je l'ai retenu, c'était de le prendre par en dessous. Donc j'ai mis en place un petit scénario, c'est-à-dire j'ai mis une poussette, un baigneur à l'intérieur de la poussette, et un sac de pommes de terre sous la poussette, et un baril de lessive devant, à l'intérieur un appareil photo à grand angle, avec télécommande sur la poignée de la poussette, et on avait tout chronométré, les 300 mètres qui marchait. On était même avec des toki-waki en disant, il arrive, ça y est, c'est parti, tout était chronométré. Et comme la nuit tombait assez tôt à cette époque, c'était vers 5 heures du soir, il a fallu que je pousse la sensibilité du film pour
avoir une photo exploitable, oui, bien sûr.
Pour avoir une photo exploitable. Et donc, les minutes étaient chronométrées. Et finalement, lorsqu'il est sorti, il est ressorti du cimetière, on a pris la poussette, et juste au moment où il descendait du trottoir, moi je levais la poussette et je déclenchais, j'étais avec mon épouse à l'époque, et je déclenchais, en levant la poussette jusqu'en je croisais. Et c'est là que j'ai pu avoir cette photo du mage de Compiègne avec son manteau, sa cagoule et le visage pour en dessous.
D'accord. Et évidemment, la photo a été très demandée. Hein,
oui, j'imagine. J'ai eu une chance inoubliable. C'est que je l'ai eu tête découverte une fois.
Oui.
C'est que, j'apprends qu'il y avait l'enterrement du roi des Gitans à Compiègne.
Oui.
Et j'y vais avec un stagiaire, comme ça. Et puis je regarde le parcours, puis je vois un garage avec une fenêtre qui donnait sur le parcours. Et donc, on demande au propriétaire du garage, on veut pas déranger, il y a un enterrement, est-ce qu'on peut emprunter la chambre? Et voilà, pas déranger. Le propriétaire sympa nous dit oui, il y a pas de problème, etc. J'avais garé ma voiture assez loin, en amont.
Mm-hmm.
Et le cortège se met en marche. Et j'avais ouvert la fenêtre, mais vraiment, je peux vous dire, j'avais ouvert la fenêtre entrebâillée. Et je commence à faire les photos lorsque le cortège arrive. Il était entouré par des gardes du corps, gardes de gitans musclés qui étaient tout autour. Ouais. C'était comme un président de la République. Il était plus surveillé qu'un président de la République. Et je voyais au fur et à mesure que je prenais les photos qu'ils avaient repéré visiblement ma voiture et ils levaient les yeux partout. Ils regardaient partout, à droite et à gauche. Et ils ont vu cette fenêtre, mais pas ouverte, vraiment entrouverte, ouais, quelques millimètres d'ouverture. Ouais. Et tous les gitans sont toute la garde est rentrée dans le garage.
D'accord, oui.
J'ai mis une armoire sur la porte pour pas.
Vous étiez très mal là. Ouais, ouais.
J'ai rembobiné ma pellicule. J'ai mis une autre pellicule dans un appareil photo, un autre appareil photo, un Leica. Ouais. Et puis ça criait, il y avait des menaces de mort.
Ouais,
donc ouais. Le patron est venu.
Donc c'était très chaud.
Descendez.
Ouais. C'était violent. Hein.
Ouais. Pardon.
Je dis, c'était violent, je m'en souviens. Ouais.
Vraiment, il a fallu que je descende parce que le patron, ouais.
Ils vont casser la maison.
Alors donc, j'ai pris mon Leica avec une pellicule vierge et je suis descendu. Là, j'avais affaire avec toutes les gardes visitants, dont l'un qui était véritablement responsable, qui me prend mon appareil, qui me tire. Ouais. Et je lâchais pas, bien que j'avais une pellicule vierge. Ouais. Et donc, après, je dis, je vous donne la pellicule. Donc, j'ai rembobiné, je donne la pellicule, et ce responsable hésitant me dit, écoutez, j'espère que c'est la bonne pellicule. Ouais. Parce que je sais où vous habitez, je sais que vous avez une femme, vous avez des enfants.
Alors, d'accord.
Donc, j'ai posé plainte pour menace et pour coups et blessures. Et je suis revenu chez moi, j'ai dit, mais pourquoi il y a autant de gitans? Et j'ai développé le film, j'ai regardé sur l'agrandisseur, et je me suis aperçu qu'il y avait un type qui était blanc, qui avait vécu de blanc, sans chapeau, qui était derrière le cortège au premier rang. Ouais. Et en développant cette photo, aussitôt, j'ai dit, c'est pas possible. Je suis parti en catastrophe voir le commissariat de police où j'ai rencontré le commissaire Cato de l'époque. Ouais.
C'était qui alors sur la photo?
Attendez.
Non, mais oui, je suis obligé malheureusement d'avoir un œil sur la pendule. C'est pour ça que je vous presse un peu là,
C'était le roi. C'était finalement le commissaire qui l'a reconnu. C'était finalement le mage de Compiègne.
D'accord.
Qui était tête découverte comme n'importe qui.
Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir réveillé ces vieux souvenirs agités quand même.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, merci vraiment.
Jacques, merci Alain.
Infiniment Jean-Marc Rocasserin, donc qui était reporter pour l'agence Gamma à l'époque. Une pause, puis ensuite, on reparlera quand même de la réaction de la population. Il y avait des gens, évidemment, par centaines et par milliers qui croyaient au don du match de Compiègne. Il y avait aussi des gens qui étaient outrés par les morts qui se sont quand même succédé pendant des années et des années. On en parlera avec Alain Mont. Et puis ensuite, on aura un petit coup de fil à Compiègne même, avec Nicolas Ledé, qui est adjoint au maire de Compiègne, qui nous parlera de ce que devient la maison aujourd'hui.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Dans un tout petit instant, on va rejoindre donc Compiègne pour parler de ce qui se passe aujourd'hui avec Nicolas Ledé, l'adjoint au maire. Mais d'abord, pour comprendre, Alain Hamon, comprendre l'enchaînement des choses, parce qu'il y a eu des choses très graves et des morts vraiment regrettables, sinon on parlerait de cette affaire avec le sourire uniquement. À l'époque, vous allez sur place à Compiègne parce que on est en 1971, il y a une jeune fille de 16 ans, Béatrice Arrault, qui est morte d'une tumeur au cerveau non soignée parce que ses parents, adeptes du mage, refusaient de lui procurer des soins dont elle avait besoin. Et on va écouter le point que vous faisiez sur ce drame le 20 octobre 71 sur RTL.
Lorsqu'au mois d'avril dernier, la petite Béatrice est présentée au docteur Luneau, le médecin de famille, celui-ci ne sait pas encore ce qui se cache derrière les quelques troubles mentaux décelés chez l'adolescente. Pourtant, il la renverra devant un spécialiste compiégnois, le docteur Hamel, qui, lui, pressent le drame. Béatrice est atteinte d'une tumeur au cerveau bien localisée qu'on peut soigner. Il faut la faire visiter par un neurologue de Paris ou d'Amiens. C'est là que commencent les difficultés pour le praticien. Les parents de la malade sont disciples de René Hainaut, le mage de Compiègne. Il refuse fermement de continuer les examens. Deux mois passeront, deux longs mois pendant lesquels les habitants de Villers n'auront même plus de nouvelles de leur petite voisine. En mai, le premier médecin consulté se verra refuser la visite de sa patiente par les parents de cette dernière. Elle va très bien, lui répondra-t-il. Seuls quelques camarades de Béatrice l'apercevront en rentrant par hasard et très vite. L'une d'elles dira, elle était prostrée sur une chaise, on lui avait donné des jouets de bébé. En juillet, l'opinion publique est alertée. Le procureur de la République fait enquêter les gendarmes. Voisins, parents, médecins sont interrogés. Béatrice est alors un squelette vivant. Les autorités somment alors les parents de la malheureuse de la présenter à un docteur. À la mi-septembre, un psychiatre parisien est consulté et décide l'hospitalisation. Là encore, personne n'aura plus de nouvelles de la petite malade jusqu'à dimanche où l'on apprend qu'elle est morte à l'hôpital Cochin à Paris. Lorsque le premier neurologue l'avait examinée, il avait dit aux parents de Béatrice, elle en a encore pour 6 mois à vivre, mais il avait ajouté en opérant, il y a 80% de chances de la sauver.
Voilà, c'est l'irruption quand même du drame dans cette affaire. On va à Compiègne tout de suite. Nicolas Ledet, vous êtes là? Bonjour.
Oui, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes, je rappelle, adjoint au maire de Compiègne. Bon, vous avez habité longtemps à côté, hein, je crois, de la maison du mage.
Oui, tout à fait, une rue juste après.
Alors je sais pas, je connais pas votre âge, mais vous avez évidemment entendu parler. Enfin, quand on est à Compiègne, on peut pas passer à côté de l'histoire du mage de Compiègne.
Effectivement, né à Compiègne, j'avais 15 ou 16 ans à l'époque. Et je me souviens très bien qu'il y avait déjà une grande fréquentation. Aujourd'hui encore, la fréquentation est certaine en fin de semaine, puisque vous avez toujours plusieurs centaines de personnes étalées sur 3-4 jours viennent.
Mmh. Il y a des cars, il paraît, il y a des bus qui viennent.
Alors il y a des périodes, oui, il y a des périodes très données encore des cars et des bus qui viennent du Luxembourg, de Hollande et de Belgique assez souvent.
Oui, parce qu'on a une auditrice qui nous a appelé tout à l'heure, Christiane, qui habite dans la rue de Monchy et qui nous dit que il y a chaque jour une vingtaine donc de personnes et une fois par mois un bus qui vient de Belgique.
Tout à fait.
Le premier dimanche de chaque mois. Alors est-ce que vous comprenez? On comprend comment bon les drames, on peut pas les effacer. Malgré tout, il y a cette ferveur qui continue.
Moi, je dis toujours, on ne peut pas ne pas reconnaître une croyance en telle ou telle chose.
Oui, bien sûr. Oui.
La seule chose, c'est qu'effectivement, ce n'est pas plus gênant que cela pour les abords de la route et de la ville de Compiègne. Oui. Ça avait mis un coup de projecteur tout de même sur Compiègne il y a quelques années.
Ça, c'est sûr.
Toutefois, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a toujours des adeptes.
Mmh. Et la maison appartient à qui maintenant? Elle appartient toujours à la famille?
Alors la maison appartient toujours à la famille, elle est extrêmement bien entretenue, des peintures ont été réalisées extérieurement dernièrement d'ailleurs, ouais. C'est une maison qui n'a aucun caractère d'insalubrité.
Voilà. Et plus personne ne guérit dans le quartier?
Plus personne n'a l'air de guérir dans le quartier, mais il y a toujours une certaine ferveur que je peux comprendre.
Je vous remercie beaucoup. Maintenant, c'est bien, on a fait le point sur tous les aspects de ce dossier. Il y a aussi des gens, il faut le dire, hein, qui appellent pour dire, mais bon, certes, il y a eu ces drames, mais est-ce que vraiment il avait ou pas un pouvoir de guérisseur? Ça, on peut pas répondre à cette question, sauf à dire que beaucoup de gens, en tout cas, y croient. Merci beaucoup, Monsieur Ledet.
Je vous en prie.
Il nous reste 2 minutes, Alain Hamon, mais un petit peu, une minute même.
Ouais. Jacques, je note un truc, c'est que je suis en train de faire le compte rapide après que vous ayez diffusé le papier de 71. Là. Oui. Moi, j'en suis quand même à 7 victimes.
Oui.
7 personnes qui, entre 62 et 71, sont mortes d'avoir subi, non pas suivi, mais subi les préceptes du mage. Oui. C'est-à-dire que c'était des gens dont la famille disait, ou le mari, ou les parents, ou là, disaient,
alors,
non, on te soigne pas.
Ma dernière question, parce qu'elle est venue aussi au standard, il accepte les dons ou pas? Parce qu'il ne se fait pas payer, il reçoit personne en consultation.
Non, mais il lui a apporté, comme il ne sortait jamais.
De quoi il vit, alors?
À l'époque, les gens qui venaient le voir lui apportaient des vivres, des choses comme ça, des légumes du jardin, des poulets, des lapins, etc. Je noterai une deuxième chose quand même, c'est que René Hainaut s'est éteint le vendredi 20 avril 1990.
Ouais.
Et s'ils avaient pu, ses proches auraient tue cette mort, mais en 90, c'est pas en 69. Hein.
Oui.
Donc, moralité, il est arrivé ce jour-là à René Hainaut mort, quelque chose qui allait à l'encontre totale de la vie qu'il a vécue, c'est-à-dire qu'un médecin est venu chez lui pour constater son décès.
Oui. et il a été amené au cimetière par une escorte de gens de la communauté gitane qui ont même, paraît-il, viré les pompes funèbres et qui l'ont enterré avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Voilà. Ben, on vous a raconté cette étrange histoire. Merci beaucoup, Alain Mont. C'est à cause de vous. Hein. C'est dans une conversation un jour où je vous demandais vos souvenirs de reportage. Je comprends mieux que vous ayez pensé tout de suite à cette histoire. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Et puis, dans quelques instants, on retrouvera aussi, bien sûr, Flavie Flamand.